Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce jour même de la Saint-Pierre, Saint-Paul, qui sera solennisé dimanche, nous devons nous recueillir dans cette perspective particulière du fait même de notre retour du pèlerinage de Fatima pour ce centenaire où la Vierge Marie évoque le pape et l'importance de son rôle dans les événements. Au point que nous pouvons bien comprendre la raison pour laquelle, à travers les siècles, et malgré le fait que dans de nombreux territoires, les décrets pontificaux ou des consultations auprès du Saint-Siège et de Rome n'étaient pas fréquentes et que de nombreux diocèses se sont développés paisiblement, en étant simplement liés dans la foi et dans les grands textes des conciles écuméniques, alors même que ces évêchés vivaient dans la paix avec le successeur de Pierre, sans avoir de grands contacts réguliers, du fait même de l'absence de transport facile et de communication facile. Mais dans la providence divine, le fait même que nous ayons un chef et une hiérarchie dans le corps même de l'Église correspond à un point particulier, qui est le fait que le Sauveur est unique et personnel. Ensuite, nous verrons bien que, à l'image du Sauveur, ces hommes uniques et providentiels doivent démontrer et suivre une mission particulière. Mais tout d'abord, nous comprenons bien que le Christ est unique. C'est un seul homme, avec son intelligence et sa volonté, uni à la personne divine du Verbe, qui nous a sauvés. Car le salut n'est pas collectif, il est participé d'une seule volonté, pour bien montrer la responsabilité d'une seule volonté. Le salut vient de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre propre salut viendra de notre coopération à la grâce. Bien sûr, il y a la communion des saints. Il y a une union extérieure qui nous aide et qui participe à ce salut. Mais fondamentalement, le salut est individuel. Nous honorons aujourd'hui un seul homme, Pierre, un seul homme, Paul, sur ces 12 apôtres. Et encore, il y en a un qui a trahi et qui a été remplacé par Matthias. Ces hommes providentiels se sont répandus à travers le monde pour dire la décision de Dieu de l'incarnation. L'un d'entre nous, un être humain avec un corps, une âme, né de la Vierge Marie, avec le miracle de ne pas avoir de père humain, parce qu'il a un Père divin qui nous sauve. Et ainsi, celui qu'il va choisir pour être le prince des apôtres, il est unique. Pourquoi, me direz-vous alors, on a toujours mis aux côtés de Saint-Pierre, Saint-Paul? Eh bien, par sa mission particulière d'apôtre parmi les 12, celui qui a été ajouté et à qui Jésus est apparu spécialement et qu'il a enseigné personnellement et qui a une telle importance dans la vie de l'Église que pour ne pas avoir de concurrence entre Saint-Pierre et Saint-Paul, on les représente ensemble, tout en retenant que Saint Pierre est le vicaire du Christ. Saint Paul lui-même, lui faisant un jour une remarque par rapport à la nécessité d'observer la loi de Moïse, se lève et affronte Saint Pierre face à face, avec politesse mais avec fermeté. Alors, Saint Paul décrit dans son épître aux Galates, « Et ce n'est pas rien de parler ainsi à Simon Pierre, les colonnes de l'Église. » Et voilà donc que ces hommes providentiels, nous les attendons aussi de nos évêques, car les évêques sont les successeurs des apôtres. Et comme vous le savez, dans différents diocèses, tel évêque vient, part, et dans le diocèse de Paris, en novembre, nous aurons un nouvel archevêque. Alors, vous me direz, puisque c'est un choix divin et que c'est une mission personnelle, que pouvons-nous faire ? Eh bien, coopérer en effet à ce choix personnel d'un homme providentiel. Providentiel, alors tout est gagné ? Non, car un homme reste libre et un évêque peut être un grand saint ou ne pas être un saint. Nous pouvons demander à Dieu un grand saint pour être archevêque de Paris. Nous devons le demander à Dieu. Mais alors ce soir, quelle est cette mission qu'ont eu Saint-Pierre et Saint-Paul, qu'ont les évêques ? Eh bien, c'est de témoigner et d'enseigner ce qui a été transmis de l'incarnation, de la rédemption, de la mort de notre Seigneur sur la croix, des chutes et des relèvements de ceux qui ont cru et qui n'ont pas cru, de la présence de la Vierge Marie au pied de la croix, tous ces témoignages, jusqu'à offrir sa propre vie. C'est ainsi que Saint Pierre a été crucifié en demandant à être la tête en bas pour ne pas se considérant comme indigne d'être crucifié comme son sauveur et Saint Paul comme citoyen romain décapité à l'épée. Est-ce que tous les évêques ont vocation à mourir martyrs ? En quelque sorte oui, car les collaborateurs du pape, du successeur de Pierre, sont des cardinaux. Et ils ont la pourpre, ils ont la couleur rouge pour le sang répandu. Et le témoignage des évêques doit être courageux. Il ne doit pas être, comme le dit le prophète, des chiens muets qui n'avertissent pas, ou des mercenaires qui ne se soucient pas des brebis. Et ce courage dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, font de ces évêques qui sont véritablement fidèles à la mission providentielle. Alors nous pourrons nous réjouir d'avoir un archevêque plein de cette foi et de cette espérance et de cette charité. Comme nous devons prier et comme l'Église prie pour la sainteté et la force de chaque souverain pontife. Si donc l'Église prie, c'est qu'il y a besoin de prier. Et le Christ lui-même veut que nous participions à cette force personnelle de cet homme. Ainsi, nous avons notre responsabilité tout de même dans cette mission apostolique où nous devons être des instruments de la grâce tout en sachant que jamais l'Église catholique ne disparaîtra avant le retour du Christ et qu'elle sera la seule religion à affronter l'Antéchrist. Toutes les autres auront été absorbées dans un syncrétisme universel où ils devront accepter le plaisir, les loisirs, l'individualisme complet pour la destruction de toute vie saine, juste et familiale. L'Église catholique, elle, résistera et pourra entraîner toutes les âmes de bonne volonté contre cette religion mondiale, contre cette mainmise sur les âmes, sur les esprits, sur les enfants, pour que nous puissions résister jusqu'au sang, mais pas forcément le martyr, mais le témoignage d'une vie conforme et cohérente à l'Évangile. Avec cette abnégation, avec cette joie qui fait la liberté des enfants de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la Vierge Marie elle-même, à Fatima, nous demande de prier et de prier pour le pape, comme Sainte Jacinthe de Fatima un jour eut cette vision dans son village. Elle vit le pape la tête dans les mains, tout triste, et des personnes criaient et lui jetaient des projectiles. Comme il était triste, le pape. Il faut beaucoup prier pour le pape, disait Jacinthe à François et à Lucie. Oui, il y a un rôle providentiel de ce successeur de Pierre et de ce vicaire du Christ. À nous de bien le comprendre, car nous en avons bénéficié à travers les prêtres, à travers les évêques, car nous avons eu un enseignement qui est le catéchisme. Et quelles que soient les erreurs des uns ou des autres, nous devons toujours revenir à ce qui a été enseigné, toujours, partout et à tous. Le magistère universel, le catéchisme de l'Église catholique, qui est empreint de cet amour, de cette présence du Christ, de cet Esprit Saint qui veut le salut et le bonheur de tous ceux qui recevront cette bonne nouvelle d'un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi soit-il.